Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique en ce lundi matin est Paul Le Guernic. Il est adjoint au maire de Pontivy. Il est également conseiller communautaire à Pontivy Communauté. Et il est arrivé tout à l'heure pour nous rejoindre au micro de la matinale en direct en ce lundi matin. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Alors on va parler de politique, Paul Le Guernic, avec beaucoup de soubresauts, on l'aura compris ces derniers temps. Je vous demanderai juste de vous rapprocher un tout petit peu du micro pour qu'on vous entende bien. Beaucoup de soubresauts politiques et ce budget de la sécurité sociale qui doit être, alors en principe, voté à 15h, mais on s'attend quand même à un 49-3 et on s'attend dans la foulée à une motion de censure qui pourrait être déposée par LFI et votée par LFI et le Rassemblement National. Ce qui ferait tomber le gouvernement, une première depuis 1962, ça s'est passé à ce moment-là, c'était le gouvernement Pompidou. Alors beaucoup de choses, tout d'abord sur cette situation politique, Paul Le Guernic, un peu inattendue, un peu chahutée, quel est votre regard ?
Oui, ce serait une première peut-être depuis 1962, mais il y en a eu d'autres des premières quand même, parce que il y a eu les échecs répétés aux élections d'En Marche, quoi, du bloc centre-gauche. Ensuite, il y a eu la dissolution. À l'issue de cette dissolution, pas de majorité claire. Et donc ça aussi c'est très nouveau. D'autres parlent encore de démission du président. Et c'est vrai que ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé non plus. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'effervescence. Et s'il y a une première, ce ne sera pas la première des premières qui nous est imposée récemment.
Sachant que des budgets qui n'ont pas été votés en temps et en heure, là aussi, il y en a eu, pour le coup, ce n'est pas une première. Il n'y aurait pas de shutdown, comme l'on dit aux États-Unis, à la française, ça n'existe pas dans notre fonctionnement politique et économique, mais on peut imaginer qu'il y ait beaucoup de soubresauts, là aussi, et de tangage du côté des marchés financiers. Si le gouvernement devait tomber, on le voit déjà, les taux de prêt pour la France sont de plus en plus élevés. On parle d'un scénario à la grecque. C'est quelque chose qui... C'est une petite musique qu'on entend depuis quelques temps. C'est quelque chose qui vous préoccupe, vous, en tant qu'élu?
Ce qui est surtout préoccupant, c'est que un des grands arguments, on va dire, du centre-gauche, de la technocratie, c'était de dire, oui, peut-être tout n'est pas parfait, mais nous, on gère bien, il y a la rigueur dans les finances, on est sérieux, on a fait des grandes études, blablabla. Et en fait, on voit que ces gens-là, depuis 10 ou 15 ans qu'ils y sont, ont accumulé une dette record dont personne n'aurait pu imaginer l'ampleur, avec des déficits complètement pharaoniques. Parce que quand on voit que là, l'objectif, attendez Bruno Le Maire dire que, pour se défendre, que l'objectif, si lui, il avait été là, ils auraient pu être à 5% de déficit au lieu de 6, et que ça veut dire que c'est un gars qui gère bien, c'est quand même catastrophique. Donc en fait, l'argument de dire que c'est au pire les soubresauts, l'instabilité qui va créer la catastrophe budgétaire, on voit qu'il se heurte à la réalité de dire que c'est la gestion accumulée depuis 15 ans, la gestion catastrophique qui crée le problème dans lequel on est, puisque c'est le niveau de la dette et le niveau de déficit qui crée la faiblesse vis-à-vis des prêteurs, quoi. Donc c'est ça le sujet à régler. Après, ça peut être un peu pire ou un peu mieux suivant la stabilité, mais le problème de fond, c'est qu'on est complètement englué dans une dette abyssale, quoi. Donc c'est ça surtout qu'il va falloir s'atteler à régler, mais c'est pas une mince affaire.
Voilà, avec des difficultés pour pouvoir équilibrer. Alors équilibrer le budget, c'est une chose, mais aussi équilibrer le fait de pouvoir continuer à faire fonctionner la France, ses institutions, mais aussi les collectivités territoriales. On en dira un mot tout à l'heure, évidemment. Et à la fois continuer à investir, continuer à projeter la France dans l'avenir. Il y a aussi ce qui se profile, c'est une possible crise institutionnelle. Est-ce que selon vous, j'ai posé la question à quelques-uns de mes invités, je voulais avoir votre éclairage. Est-ce que selon vous, on arrive à cette crise institutionnelle et quelque part aux limites de la Ve République ?
Oui, le système de la Ve République, bon, de toute façon, c'est un cours, hein, c'est pas spécialement exceptionnel de dire ça, mais ça a été créé pour un homme qui était donc effectivement le général de Gaulle avec sa stature, sa puissance et puis le l'aura qu'il avait, voilà. Et il n'est pas adapté c'est pas contre Emmanuel Macron, je pense, ça n'est plus adapté. Je pense au type de personnalité qu'on a aujourd'hui, qui ont leurs propres mesures, qui n'est plus une mesure de, de, de quelqu'un qui a fait la guerre et qui arrive dans un temps particulier. Et ça se voit particulièrement pour le 49-3, puisque cet article de la Constitution, eh bien, il est fait donc pour faire passer, par exemple, un budget, mais avec une véritable assise. Il n'est pas fait, normalement, pour un gouvernement qui n'a pas de majorité claire.
C'est pas un passage en force.
Du fait finalement. De la composition du Parlement. Non, c'est un texte légal. Chacun peut l'utiliser comme il veut, et ce n'est pas une histoire de passage en force. Mais on voit qu'on arrive à des découpages politiques qui ne permettent plus d'utiliser ces institutions-là. Donc, il y aura forcément des choses à revoir. Alors, est-ce que c'est les institutions qui ne sont plus au goût du jour, ou est-ce que c'est le personnel politique qui a beaucoup baissé en qualité, peut-être par rapport aux années 60, c'est possible aussi. Mais voilà, ça va être à revoir complètement, parce que ça ne peut plus vraiment fonctionner, je pense.
Il faut repartir d'une page blanche, comme par exemple préconise la France insoumise, passer à une 6e République très différente de la 5e, ou est-ce qu'il faut reprendre les bases de solidité de la 5e pour écrire autre chose, pour modifier cette 5e République?
Je pense que la France, l'État français est déjà celui probablement en Europe qui a eu le plus de constitutions différentes depuis la Révolution française. Donc on est accoutumé à changer souvent. Je pense quand même que le système de la 5e République a montré une pérennité et une stabilité qui n'était pas le cas forcément pour la 4e. Et puis la 3e a fini, comme on sait, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je pense que tout n'est pas à jeter. Il faut revoir le système. Ça ne m'appartient pas à moi. Ça dépasse ma compétence de dire s'il faut changer de constitution ou pas. Mais je pense qu'en repartant sur les bases de la 5e République, on doit pouvoir faire quelque chose de plus au goût du jour sans forcément jeter le bébé avec l'eau du bain.
Avec aussi une recomposition politique, elle est arrivée en 2017 avec l'avènement d'Emmanuel Macron, un affaiblissement des partis politiques traditionnels, on pense au PS, on pense à LR, une montée des partis d'extrême gauche, on pense évidemment à LFI, ou à droite au Rassemblement National. Est-ce que ça amène aussi une forme de confrontation plus brutale, plus violente? On a vu, c'est presque affrontement à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, qui donne aussi une image quelque peu dégradée finalement de la chose politique. Est-ce que c'est une inquiétude aussi le fait qu'il y ait que la vie politique soit un peu plus brutale, soit un peu plus tranchée aujourd'hui?
Alors, je pense qu'il y a un effet grossissant actuellement parce qu'il y a des images partout, tout est filmé en permanence, on a accès à ces images sur les réseaux, sur Internet. Et donc le moindre accrochage, disons, prend des proportions terribles. Mais je ne pense pas que la société soit plus opposée, plus tendue politiquement qu'elle était. Parce que les origines de la 5e République, c'est 1958. Et en 1958, de part et d'autre, entre, les communistes, les gaullistes, les milieux conservateurs militaires qui avaient encore du pouvoir avant la guerre d'Algérie, etc., il y avait quand même un éventail très très large, avec parfois des positions violentes, et donc je pense pas qu'on soit forcément dans le pire moment qu'on ait eu politiquement. C'est juste que c'est le brouhaha permanent, et que comme il n'y a pas de majorité claire au Parlement, les gens n'avancent pas ou ne travaillent pas pour faire adopter des positions, puisqu'ils savent que ce sera difficile. Ils font de la communication, déposent des amendements, ils braillent contre quelque chose d'autre, ils en viennent aux mains, ils se secouent le col. Bon. Et ça, je pense que c'est lié au fait qu'il n'y a pas de solution politique actuellement, et que donc c'est la communication et l'excitation qui prend le pas sur le travail. Mais point de vue idéologique, je ne pense pas qu'on soit au pire moment qu'on ait connu, depuis la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, il faut savoir aussi que sous Clémenceau, on s'envoyait les encriers à la figure. Autre époque. Autre mœurs. Néanmoins, il y avait cette chute du gouvernement Barnier, on va repartir sur un cycle qu'on a déjà connu avec le choix d'un nouveau Premier ministre, voilà, à nouveau le choix de Michel Barnier, ce sera le choix du président de la République. Ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué. Alors, en dehors du budget, il faut continuer à faire fonctionner la France, les institutions vont continuer à fonctionner. Mais est-ce que ce n'est pas lassant, au bout d'un moment, de se dire, voilà, on va encore une fois devoir changer de gouvernement?
Bon, je pense que si on a beaucoup... comment je vais dire ça quand on voit l'action politique qu'il y a eu depuis 15 ans, on se dit que ça aurait peut-être été mieux si un certain nombre de personnes avaient moins de pouvoir et s'étaient contentées de gérer les affaires courantes. Parce que qu'est-ce qui s'améliore vraiment? Est-ce que, que ce soit l'économie, la fiscalité, la sécurité, la vie des collectivités. Qu'est-ce qui a vraiment amélioré en 15 ans? Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment beaucoup d'exemples. Et donc, quand on voit la qualité globale du personnel, c'est peut-être mieux que les gens qui soient possiblement nommés aient des pouvoirs assez limités, peut-être imposés par une majorité qui n'existe pas actuellement. C'était un peu la divine surprise pour LR, donc, d'avoir, avec un résultat si faible législatif, quand même des ministres. Donc, j'espère que ceux-là, ils vont continuer à agir. On a aussi des Morbihanais qui sont bien positionnés, donc ça c'est important. Maintenant, croire que c'est parce que les politiques auront moins de pouvoir, c'est ça qui va créer du problème, j'en suis pas certain, parce qu'ils en ont eu beaucoup, et c'est quand même ça qui nous a mis dans la situation dans laquelle on est. Ouais.
On peut aller vers un gouvernement technique, on peut imaginer ça demain?
De toute façon, quand il n'y a pas de pouvoir politique clair, que ce soit par déficience des personnes ou parce qu'il n'y a pas, comme c'est le cas en l'espèce, de majorité parlementaire, eh bien, c'est l'administration qui prend le pouvoir. Donc, de facto, je pense que ça fait déjà quelques mois, si ce n'est quelques années, que l'administration a repris le pouvoir sur le politique. Alors, ça se voyait moins avant. Là, c'est assez criant. Je voyais, là, récemment, il y a des campagnes de l'ADEME, là, pour Noël, explique qu'il ne faut pas faire ses courses pour Noël, il ne faut pas acheter trop de suites parce que ça pollue, etc. Bon, on veut dire de quoi ils se mêlent, tous ces gens-là. Mais ce n'est pas la faute du ministre actuel, je ne pense même pas. Mmh. C'est-à-dire, voilà, l'administration est en roue libre. Michel Barnier l'a bien dit, ça, au congrès des maires, l'administration ne prend que l'espace que les politiques lui laissent. Bon. Et donc, je pense que gouvernement technique ou pas, ce sera assez cosmétique, sachant qu'actuellement, voilà, la bureaucratie a un grand pouvoir.
Voilà, on a laissé beaucoup de place, finalement, à l'administration, à une forme de gestion qui se substitue aux politiques, hein, si on peut le résumer ainsi.
Mais c'est tout à fait humain, je ne pense pas que ce soit lié à des personnes précises actuellement. Mmh. Dans les collectivités territoriales, c'est pareil. Il y a la direction générale d'une mairie. Bon, une mairie peut fonctionner quasiment sans élu. Alors moi, des fois, quand on n'est pas d'accord, on leur dit ça. On leur dit, à ce moment-là, si nous, on ne sert à rien, on arrête les élections et puis vous débrouillez. Donc, toutes les collectivités, c'est pareil. Il y a l'administration. Et si elle n'a pas de directive claire ou qu'on ne lui donne pas des directions, eh bien, elle peut auto-fonctionner en lévitation toute seule, là. Et c'est ce qui arrive, mais c'est ce qui arrive quand c'est de la faute des hommes politiques. C'est pas la faute des services, ils font leur boulot. Mais s'il n'y a pas de direction qui est donnée, ben les gens s'auto-organisent.
Il y a une faute grave de la part d'Emmanuel Macron qui a dissous l'Assemblée nationale le 9 juin dernier, qui peut à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale. Il devra attendre l'été, et là aussi après le 9 juin. Il y a une faute morale du président de la République, une faute politique.
Faute morale, je ne sais pas. C'est une décision qui lui appartient. Donc, les institutions sont ainsi faites que beaucoup de pouvoir repose dans la seule personne du président de la République. Donc, c'est pas à moi de lui faire la leçon, d'accord. Donc, je n'irai pas sur le terrain de la morale, mais politiquement, oui, on voit bien que, extrêmement affaibli, il a décidé par la dissolution de rebattre les cartes et donc potentiellement d'en perdre certaines. Il a perdu la majorité qui était déjà affaiblie, mais la majorité qu'il avait à l'Assemblée nationale. Donc, ça, pour lui, c'est effectivement... À mon avis, oui, c'est une faute, mais c'est toujours facile de donner un jugement a posteriori. Mais maintenant, il est tout de même quand même la personne responsable du brouhaha et de l'instabilité légale qu'on a, parce que partant de la Constitution, la 5e République, qui est extrêmement solide, arriver à une situation comme celle-là, c'est qu'il faut déjà être très affaibli personnellement. Mmh. Et il n'a pas pris cette mesure, je pense, puisqu'effectivement, on raconte toujours une histoire, mais quand le général de Gaulle a été désavoué sur des questions référendaires, il a lui-même démissionné, estimant qu'il n'avait plus la confiance du peuple. Ce que Emmanuel Macron ne semble pas prêt à faire actuellement, mais comme ses prédécesseurs ne l'ont pas fait récemment non plus. Donc, je pense qu'il est responsable politiquement de la situation quand même très compliquée dans laquelle on est. Et la seule chose qui reste à faire, c'est une décision qui lui appartient, c'est éventuellement de quitter le pouvoir. Mais je ne pense pas qu'il soit prêt à le faire. Et je pense que c'est peut-être, aussi, je ne vais pas dire passé de mode, mais en tout cas, ça n'est plus dans... peut-être dans le fonctionnement et l'idée que les gens se faisaient du pouvoir comme dans les années 50 avec quelqu'un ou 60 avec quelqu'un comme le général de Gaulle. On n'est peut-être plus avec cette race d'hommes-là.
Voilà, on a perdu cette élégance du pouvoir, on pourrait le, le dire comme ça aussi, cette élégance de dire, voilà, ça ne fonctionne pas, c'est de ma faute, je pars. Pourtant, on entend des voix, y compris à gauche, qui demandent la démission du président de la République, qui sont même prêts à, je dirais, à faire le geste pour pouvoir le pousser à la démission. Là aussi, ça apporte de l'instabilité politique, ça apporte des... j'allais presque dire des espoirs politiques pour des formations, en l'occurrence, à gauche.
Bah comme la France est un pays très socialisé, c'est-à-dire avec une puissance de l'État qui est incomparable dans les pays riches, donc au sein de l'économie, donc on est c'est une économie administrée pour pas dire autre chose. Bon, donc comme il y a en plus un système politique qui est pyramidal avec un président de la République qui est très important, eh bien c'est sûr que ça attise les convoitises. Tout le monde a l'œil sur la présidence de la République et chacun est obnubilé par ça. Et par conséquent, effectivement, des gens vont aller proposer des démissions, même si faut déjà quand même, comment je vais dire, faut avoir une haute opinion de soi-même pour estimer qu'on a à conseiller ou pas au président de démissionner. C'est à lui de décider, ça le concerne lui-même, et je pense pas que ce soit aux opposants politiques ou aux responsables politiques qui n'ont pas un quart de pouvoir et de charge qu'il a sur le dos lui-même de parler de ça, quoi. Je pense que c'est vraiment personnel. C'est ça, de son propre jugement et de sa propre conscience, et si jamais il le fait, ce sera de son fait, et ça n'a pas à venir de je ne sais quel député ou sous-conseiller qui vient dire ça, quoi. Je trouve qu'il faut être très présomptueux pour demander cela.
Alors, début du feuilleton tout à l'heure à 15h à l'Assemblée nationale, on va le suivre ce dossier évidemment de très près, voir la suite, avec beaucoup de conséquences. Vous avez évoqué tout à l'heure, Paul Le Guernic, les collectivités locales, en parlant de leur fonctionnement. On les entend beaucoup, les collectivités locales, aujourd'hui, que ce soit les conseils départementaux, même la région Bretagne, et évidemment les maires, les communes. Et là, c'est à l'élu que vous êtes, je vais m'adresser, l'élu de Pontivy. Comment ça se passe aujourd'hui pour boucler des budgets, pour arriver à vivre dans cette époque où les agglos, les communes ont du mal à boucler leur budget parce que là aussi, on est dans une période où on va demander des efforts d'économie.
Oui, alors sur les efforts d'économie, déjà, il y aurait beaucoup à dire parce que... Je pense que la façon dont l'État central a géré ses propres finances depuis 15 ans devrait amener à plus de modestie et de retenue quand il faut débattre, discuter, porter un jugement sur d'autres gestions. Puisque si l'État était géré comme les collectivités, je pense qu'il y aura quand même des choses qui se passeraient mieux que l'État catastrophique dans lequel on est. Bon, moi, ça, c'est plus pour la parenthèse. Maintenant, il y a le problème fondamental des niveaux, de transfert qui sont faits de l'État central qui est... qui lève l'impôt. Donc, en fait, l'argent transite par l'État central en France, contrairement à d'autres endroits comme en Espagne, parfois les collectivités ont une réelle autonomie. Ça n'est pas le cas, ça n'est plus le cas en France.
C'est une question de fiscalité. On a retiré aux collectivités une forme de fiscalité directe. On pense à la taxe d'habitation, par exemple.
Oui, moi, je pense que... on dit toujours, c'est celui qui paye les violons qui choisit la musique. Bon, et donc, à partir de là, je pense que si on veut qu'il y ait une vraie autonomie des collectivités, notamment, je pense, des régions, des pays de France, comme la Bretagne, l'Alsace, etc., il faut que ce soit poussé fiscalement, que chacun fasse un peu comme il veut, en ayant peut-être plus d'ambition et plus d'impôts, ou un peu moins d'ambition et moins d'impôts, mais ce qui crée aussi de la prospérité économique, comme c'est le cas en Espagne, comme c'est le cas en Italie, et on n'en est pas là. Mais en tout cas, en dehors de cette question du niveau financier qui va être, donné aux collectivités, qui est important, le gros problème actuellement, puisqu'on est en fin d'année, donc on prépare les budgets pour l'année prochaine, budget 2025, c'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas si vraiment les taux de cotisation, effectivement, pour les salaires vont monter. On ne sait pas le niveau des transferts, on ne sait pas le niveau de subvention qu'on pourra demander dans les dossiers, parce qu'on ne sait pas quelle partie sera allouée dans les préfectures, dans les agences déconcentrées de l'État pour nous aider. Et parce que si, à la rigueur, on avait une vision claire en disant, voilà, vous allez baisser vos dépenses de temps en temps d'année, ce serait très difficile, mais ce serait anticipable. Alors que là, en fait, on ne sait pas. Dans 15 jours, ça peut être différent.
Vous naviguez à vue, finalement, actuellement.
Oui, mais c'est pas, encore une fois, je ne pense pas que ce soit de la faute des ministres. Hein. C'est-à-dire, c'est le système politique aujourd'hui est bloqué. Il n'y a pas de majorité. Ça peut tomber à pile ou face d'un côté ou de l'autre. Donc, aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et c'est ça qui crée vraiment de la tension nerveuse, sans doute, et puis des problèmes pour les élus locaux. Il y a déjà, voilà, si jamais il faut serrer la ceinture, ce sera difficile, comme pour tout le monde, d'accord ? Et ce serait probablement assez injuste vu la gestion des collectivités. Mais aujourd'hui, c'est vraiment qu'on ne sait pas quelles sauces on va être manger, et c'est ça le plus difficile.
Et comment l'expliquer finalement aux administrés qui sont demandeurs de beaucoup de choses? On pense au département qui gère toute la chose sociale aujourd'hui. On leur en demande plus, on leur transfère de plus en plus de missions sans transférer les moyens qui vont avec. On a entendu les présidents de plusieurs conseils départementaux ces dernières semaines s'exprimer, y compris au micro de la matinale de Bretagne 5. Est-ce que c'est pareil finalement pour les communes? Est-ce que à Pontivy, par exemple, vous êtes aujourd'hui en train de vous dire on prépare le budget, mais voilà, sur ça, par exemple, on va être obligé de couper, sur ça, on ne sait pas, hein, c'est un petit peu ce que vous nous disiez tout à l'heure, Paul Le Guernic, avec cependant toujours cette demande sociale de la part des administrés?
Alors, il y a deux éléments de réponse. Déjà, sur la forme, il faut toujours faire beaucoup de pédagogie. Puisqu'on est tellement noyé dans l'information et c'est tellement arrivé compliqué que les gens mélangent un peu tout, les gens et parfois nous aussi, hein, donc c'est pour tout le monde pareil, notamment typiquement sur la fiscalité, comme les gens ont vu leur fiche de taxes locales augmenter, ils sont persuadés que les mairies ont augmenté les impôts alors que c'est la revalorisation des bases qui était dans la main de l'État liée probablement aussi à l'inflation qui a eu un impact pour elles. Et il faut réexpliquer qu'aujourd'hui, typiquement à Pontivy, nous n'avons pas augmenté les impôts depuis 2014. Ils n'avaient pas été augmentés non plus avant, depuis les années 90. Donc, s'il y a une augmentation vraiment de la quantité à payer, c'est dû à la revalorisation des bases qui échappe. On revient à ce qu'on disait sur l'autonomie fiscale. Ce paramètre-là, il échappe aux collectivités qui prélèvent, en tout cas qui vont recevoir cet impôt. Donc ça, c'est plus sur la forme, faire de la pédagogie, expliquer là où on en est. Et ensuite, sur le fond de ce qu'on peut faire, moi, je ne crois pas aux histoires de... On va faire mieux avec moins d'argent. Pour moi, ça n'est pas possible. C'est-à-dire, si on a moins d'argent, on fait moins de choses. Donc, il y a peut-être des services qu'on rend qu'on ne pourra plus rendre, ou des investissements qu'il faudra étaler. Mais on peut pas continuer à périmètre constant à s'occuper d'autant de choses avec moins d'argent. Je pense que ça n'est pas gérable. Donc, si vraiment il y a moins d'argent pour les collectivités, il y a des choix qui seront faits concernant les compétences et les services. Et il faudra peut-être les faire évoluer en fonction de aussi de l'évolution normale des choses. On faisait des choses dans les années 80, peut-être que ça n'est plus nécessaire au début du 21e siècle. Mais ça, ce sera un travail difficile et probablement douloureux aussi, parce qu'il y aura des changements à impulser. Ce ne sera pas facile non plus pour les agents. Donc ça, il faudra probablement un peu de temps et un peu d'anticipation. Et aujourd'hui, on n'a ni l'un ni l'autre.
Avec, par exemple, des collectivités, on pense à la région des Pays de la Loire et sa présidente qui a décidé de couper, par exemple, dans les budgets de la culture, ce qui provoque beaucoup d'émoi. On entend également des conseils départementaux qui ne vont pas renouveler le personnel qui part à la retraite. Voilà, il y a des choix qui sont cruels, là aussi. Est-ce qu'on demande trop aujourd'hui aux collectivités locales, aux collectivités territoriales, aux mairies?
Je ne sais pas si on demande trop, parce que je pense que chacun peut voir en se promenant parfois des projets un peu pharaoniques qui ont été lancés ou des dépenses, ou se promener dans tel et tel service et voir qu'il y a beaucoup de monde. Bon, donc peut-être qu'il y a eu une période un peu plus faste qui a amené, comme toutes les périodes fastes pour tout le monde, c'est pareil pour les entreprises, hein, quand il y a beaucoup d'argent, eh bien, c'est sûr qu'on fait un peu moins attention à la dépense. Donc, on demandera des efforts aux collectivités, tout le monde doit en faire certainement au niveau de la sphère publique. Il y a l'État central, il y a la sécurité sociale, qui par définition ne s'équilibrera jamais, parce que ça ne s'équilibre pas, une sécurité sociale. Et ensuite, les collectivités, donc chacun devra mettre la main à la pâte, il faut surtout une vision claire pour l'avenir. Et effectivement, dans les missions d'une mairie, par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas réduire indéfiniment. Il y a... un service travaux, il y a ce qu'on fait pour les écoles, il y a les services généraux, bon voilà. Après, effectivement, sur la sécurité, le sport, la culture, on peut en mettre un peu plus ou un peu moins en fonction des priorités qu'on décide. Et donc, c'est plus sur ça, sur ces compétences supplémentaires un peu. Ce ne sont pas les compétences de base, si on veut parler rapidement, c'est pas une injure. Hein. Moi, je m'occupe de la sécurité à la ville de Pontivy, des villes comparables de 15 000 habitants, on peut en mettre plus ou on peut en mettre moins. C'est pas une compétence vraiment obligatoire dans la mesure où la sécurité est plus de la compétence de l'État. Mais en tout cas, je pense que voilà, c'est plus sur ces domaines-là, comme vous avez dit pour le Conseil régional des Pays de Loire, qu'il y aura une évolution possible.
Alors, avec aussi la question de la décentralisation, on entend cette petite musique depuis quelque temps aussi, en disant, voilà, si l'État central n'est pas capable de bien gérer ses finances, peut-être que des entités locales, on pense à la région évidemment, hein, c'est l'entité la plus importante, pourraient mieux gérer, pourraient mieux, en tout cas, cibler les besoins des habitants, des Bretons, et pouvoir peut-être ne pas dépenser l'argent n'importe comment. Est-ce que c'est une piste de réflexion ?
On constate quand même que moi je vais plusieurs fois par an en Suisse, bon, parce que j'ai des amis là-bas, et en attendant, c'est le système peut-être le plus décentralisé d'Europe et le système le plus vertueux en termes de gestion, puisque les communes gèrent quasiment tout ce qu'elles peuvent, un peu au-dessus, le canton fait ce que la commune ne peut pas faire, et vraiment tout au-dessus, la confédération s'occupe de certaines choses, mais c'est vraiment l'épaisseur du trait. Mmh. Donc je pense qu'il faudra massivement décentraliser pour que la France ne soit plus l'exception en Europe d'être complètement jacobine, d'accord, puisque en Espagne, c'est décentralisé, en Italie, même en Angleterre, en partie avec l'Écosse, le Pays de Galles et tout ça. Donc, il faudra de toute façon le faire, mais il faut une autonomie fiscale. Mmh. Le système le plus abouti étant celui qu'on connaît au Pays Basque, donc en Espagne, c'est-à-dire que le Pays Basque, l'administration du Pays Basque, l'État Basque, prélève elle-même l'impôt sur les Basques, et ensuite reflèche une partie de cette masse d'argent qui a été collectée à l'État central à Madrid pour payer les militaires, le tribunal suprême, la diplomatie, ce genre de choses.
Tout ce qui est régalien, finalement.
Voilà, mais tout le reste est dans la main de l'État basque, et je pense que ça, c'est le système le plus abouti de décentralisation en Espagne, et c'est aussi la province la plus riche d'Espagne, le pays le plus riche d'Espagne. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, il faut qu'on sorte de l'exception culturelle française héritée probablement d'une période révolutionnaire où il fallait tout normer, tout bureaucratiser à Paris. Et on est arrivé vraiment au bout du système. Et je pense que ça n'est pas exceptionnel de dire ça, dans la mesure où c'est comme ça partout en Europe, où voilà, la décentralisation a fait son œuvre.
Il faut aller jusqu'au fédéralisme ou il faut rester quand même dans une forme d'exception française ?
À titre personnel, mais ça n'engage que moi, je pense qu'on pourrait aller vers un système plus fédéraliste, qui prenne mieux en compte les différents pays de France, que ce soit l'Alsace, la Corse, la Bretagne naturellement. Et ça me semble, alors on en est très loin aujourd'hui, hein, c'est quelque chose d'extrêmement minoritaire. Il faudrait avoir ça en ligne de mire et ça nous permettrait peut-être d'avancer petit à petit. Mais je sais bien qu'on n'en est pas là aujourd'hui, donc il faut commencer par un morceau. Voilà.
Ça ne fait pas l'unanimité à droite, hein, le fédéralisme.
Ah non, mais je pense que là-dessus, il faut voir que probablement la gauche est plus avancée sur ces questions-là, je reconnais. Maintenant, il y a eu des porte-voix donc au niveau de... oui, au niveau de la droite, en Bretagne, bon, on avait pas loin d'ici Marc Le Fur, qui a toujours beaucoup défendu ces options-là. Alors, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, beaucoup d'autonomie pour la Bretagne. Et il faut espérer que les Bretons soient un peu moteurs là-dessus, parce que sinon, c'est vrai que ça a plutôt été défendu, en tout cas récemment, par des groupes de gauche. Mais il y a des bonnes idées partout.
Voilà, un dernier mot. Il nous reste une poignée de secondes, Paul Le Guernic. Il faut apaiser ce climat politique pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir avancer. Faut aussi que la droite et la gauche, la droite républicaine, la gauche modérée, puissent se reparler.
Bon, je pense qu'on se parle déjà quand même beaucoup, ne serait-ce que dans les exécutifs locaux, puisque vous voyez bien, typiquement à Pontivy, la majorité municipale, elle va du centre-gauche à la droite. Bon, voilà. Donc tout ça est bien obligé de discuter ensemble et on arrive quand même à faire des choses. Maintenant, pour changer le système, ce sera probablement pas par compromis. Et si jamais il faut changer des choses massivement sur l'État, ça viendra peut-être de l'extérieur, puisque aujourd'hui, voilà, la gauche modérée et la droite modérée n'ont pas fait preuve de capacité suffisante. Mais bon, il y aura le temps de voir ça.
Voilà, on en reparlera et puis on aura compris que c'était plus apaisé dans les assemblées municipales qu'à l'Assemblée nationale. Voilà, en tout cas, on va regarder ce qui va se passer aujourd'hui à 15h, un petit peu plus loin de nous à Paris. Merci infiniment, Paul Le Guernic, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Pontivy, conseiller communautaire à Pontivy Communauté. Vous étiez avec nous en direct ce matin pour l'interview politique au micro de la matinale de Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci Stéphane, c'est toujours un plaisir d'être sur Bretagne 5.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.